Amer Fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig.
Bonjour Joseph Marzola.
Bonjour Nadia, merci de m'accueillir.
Tu viens d'arriver ici à Montpellier ?
Ouais, je suis arrivé. Je suis parti il y a environ 3 semaines. Je suis venu à pied. Et je suis parti de Savoie dans une ville qui s'appelle Chambéry, où j'ai mon atelier en ce moment. Et il m'a fallu un peu plus de 3 semaines pour arriver ici. Voilà. Donc je viens juste d'arriver.
Alors tu viens d'arriver à pied de Chambéry?
Oui, exactement.
Il y a des montagnes qu'il fallait traverser?
Un petit peu, mais c'était pas des grosses difficultés. Non, j'étais dans les Alpes, mais si tu veux, on n'est pas obligé de passer sur les montagnes, on peut les contourner ou passer autour. Donc il y en a eu un petit peu, mais c'était pas.
Donc tu es artiste?
Oui.
Artiste plasticien?
Oui, marcheur. Je me définis comme artiste marcheur. Et puis, depuis plus d'un an maintenant, j'ai commencé une marche pour la paix. Un truc assez utopique, assez... Je dis utopique, des fois je dis que ça ne sert à rien, mais c'est un peu ce qui m'anime depuis plusieurs années maintenant. C'était l'idée qu'en tant qu'artiste, de savoir comment je pouvais utiliser mon temps au-delà de créer, mais en fait, créer avec la marche et créer avec le mouvement, créer avec le déplacement, mais dans un déplacement où en fait, finalement, j'utilise que mon corps. Voilà, j'utilise pas de transport en commun, pas de voiture, pas de vélo, pas de rien. Donc voilà, l'idée, c'était que mon corps soit partie prenante de ce projet, en fait. Et donc ça a commencé il y a un petit moment, et puis finalement cette idée de paix est arrivée très vite, et je me suis dit, je voyais beaucoup, on pouvait s'exprimer sur la paix, donner son opinion, donner son avis, poster des choses, etc. Moi je me suis dit, peut-être ma façon à moi de le faire, c'était d'agir, et c'était de concentrer ce temps, parce que ça prend vachement de temps là pour faire Chambéry à Montpellier. Si j'avais pris le train, j'en aurais pour 2 heures ou 3 heures. Là, ça me prend 3 semaines. Donc, je suis par exemple allé en Islande à pied pour une expo. Ça m'a pris 4 mois. Bon, après, j'ai pris un bateau à un moment donné, parce qu'on est sur une île. Mais si tu veux, tout prend du temps. Tout prend 4 fois plus de temps que ce qu'on peut vivre, on va dire, normalement. Enfin, normalement, entre guillemets. Hein.
Alors, comment ce projet de marcher sur la paix a commencé?
Ben, ça a commencé parce que je me suis dit que c'était un temps... En fait, c'était un espèce d'engagement de me dire, assez naïf, hein, de me dire que peut-être cet acte, cette action de marcher... En fait, c'est parti aussi d'inspiration comme des gens comme Peace Pilgrim, des gens qui, en fait, ont décidé de dédier leur vie, en fait, à la paix. Et je me suis dit que cette façon de faire qui me plaît bien, qui est la marche, pour moi, elle était importante. Même si elle reste naïve, utopique, je répète toujours ces mêmes mots, mais c'est parce que c'est ce qu'on me dit souvent. Hein. On me dit, je dis oui, ça n'a pas d'intérêt d'autre que...
comme faire de la peinture,
exactement,
chanter. Comme...
Exactement. Mais n'empêche qu'en faisant ça, parce que je porte sur mon sac à dos, en fait, j'ai une inscription qui dit « I walk for peace, love and kindness ». Et en fait, ça attire énormément de gens qui viennent me voir ou... Donc il y a plein d'interactions qui se créent durant ces marches et les gens sont très très ouverts, très attentifs à ça et ils me donnent leur parole en fait. Ils m'expliquent que oui, on en a besoin, ils m'encouragent tout le temps en fait. J'ai rarement eu des gens qui m'ont découragé. J'ai quasiment eu à 99% des gens qui m'encouragent. C'est-à-dire qu'ils me disent oui, ils me disent merci, on a besoin de gens comme vous. C'est important ce que vous faites, même si moi je trouve que c'est basique en fait, mais ça me réconforte un peu cette idée-là de me dire que... Parce que c'est vrai qu'il y a des matins, je me lève et il faut que j'aille marcher, il pleut ou n'importe quoi, et j'ai pas forcément Tu vois, l'envie d'aller me lever, marcher, mais voilà, je me force à le faire et du coup, ça me... Donc ça a commencé un peu aussi de me dire que peut-être des petits actes comme ça peuvent apporter peut-être un message, en fait. Après, je suis conscient que là, j'ai marché, je ne sais plus combien de kilomètres, mais en tout, j'en arrive presque à 20 000 kilomètres depuis que j'ai commencé et la paix, elle n'est toujours pas là. Donc peut-être que je vais marcher jusqu'à ma mort et la paix sera toujours pas là, voilà. Mais c'est une façon de se dire que parfois je me sens quand même peut-être un porteur de messages, voilà. L'année dernière, par exemple, j'ai voulu me diriger vers Jérusalem ou la Palestine, donc je suis allé jusqu'à la frontière grecque-turque, enfin j'étais pas très loin, et j'avais eu la possibilité de continuer, mais avec tout ce qui se passe en ce moment, le seul choix que j'avais, c'était de marcher encore quelques semaines en Turquie, après de prendre un avion. Et je me suis dit, j'ai longtemps hésité, mais je me suis dit finalement, la destination est importante, mais elle est secondaire, parce que j'avais pas, dans l'idée de prendre un avion, ça a été compliqué pour moi, de me dire qu'il va falloir que je prenne un avion, arrive à là-bas, je ne peux pas faire grand-chose. Donc finalement, là par exemple, je change de cap, je continue de marcher pour la paix dans d'autres endroits. Donc l'idée c'est aussi... d'être présent effectivement dans la marche, mais aussi de continuer en fait à transmettre un espèce de message en fait, hein.
Peut-être aussi d'être résilient, de s'adapter.
Ah oui, complètement, ouais. Mais c'est dur ça, hein, d'être résilient, parce que après 6 mois, quand j'en arrive là, si tu veux, de me dire bon, potentiellement faut que je marche en arrière, donc faut mettre un peu l'ego de côté et dire bon, voilà. Finalement, le plus important, c'est marcher. C'est pas forcément l'endroit où on va arriver. Après, le choix, par exemple, de Jérusalem et de la Palestine, au-delà de ce qui se passe actuellement, c'était aussi un haut lieu de pèlerinage de paix. Donc c'est aussi ça qui m'intéressait, de pouvoir rencontrer éventuellement des gens qui sont dans cette démarche-là, ou pas, et de pouvoir voir, en fait, étudier aussi historiquement ces histoires de pèlerinage, par exemple, ce qu'on en faisait, ce qu'on en fait maintenant, enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois, par rapport à ça.
Tu passes aussi par le chemin de la Compostelle.
Alors, le chemin de Compostelle, c'est, si tu veux, il y a des chemins partout, en fait. Hein. Il faut savoir que dans notre société, on a des chemins absolument partout. Le chemin de Compostelle en est un. Mais maintenant, si tu veux, à utiliser pour un marcheur, ce qui est pratique, c'est un chemin qui va te faire éviter les routes. Parce que géographiquement, c'est impossible d'éviter les routes. C'est-à-dire que quelqu'un qui va marcher dans la nature, qui veut marcher dans la nature pendant un mois, c'est quasiment impossible, sauf s'il va dans les Alpes, en Vanoise ou des choses comme ça. Mais si tu veux marcher sur une longue distance d'un point A à un point B, on sera toujours confronté aux infrastructures modernes, c'est-à-dire les routes, toutes ces choses-là. Donc ces chemins-là, ils sont intéressants, comme les GR, les chemins de grande randonnée, qui sont des chemins qu'on maintient en fait pour... Donc il y a ceux qui vont à Compostelle, effectivement. Donc là, c'est un autre pèlerinage. Et après, tu as ceux qui vont à Rome, tu as le pèlerinage d'Assise, tu as le pèlerinage de Saint-Michel. Enfin, tu en as partout. Tu en as en Pologne, tu en as en Allemagne, tu en as en République tchèque, tu en as partout. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant aussi. Tu en as en Turquie, au Japon, parce que j'ai fait aussi 3 mois au Japon là-bas. Après, c'est aussi des pèlerinages, mais c'est d'autres formes de pèlerinages.
Et donc, ça t'intéresse, cette notion de pèlerinage ?
Bah, ce qui m'intéresse, finalement, c'était cette dévotion qu'on prend pour se dire, pendant un certain temps, je dédie en fait à une cause. Parce que souvent, c'était ça aussi, hein, le pèlerinage, on le dédie à une cause, et puis on s'attache à cette cause, on se motive pour cette cause. Et, après... Maintenant, c'est devenu aussi un truc très... par exemple, le pèlerinage de Compostelle, il est quasiment saturé. Là. Il y a tellement de monde que ça devient... Donc, il y a un gros succès par rapport à ça. Mais si tu veux, l'idée de pèlerinage, il est en 2025, enfin, dans nos temps. La plupart des gens que je rencontre qui sont sur des chemins de pèlerinage, c'est souvent aussi un chemin intérieur qu'ils font, même s'ils ne le disent pas. Tu vois, il y en a qui vont le faire sportivement, d'autres qui vont le faire religieusement, d'autres qui vont le faire parce qu'ils se cherchent. Hein, ou d'autres, j'ai rencontré beaucoup de gens, par exemple, qui changeaient de vie, qui en avaient marre de leur boulot, qui arrêtaient, et puis du coup, qui prenaient ce temps pour réfléchir, en fait. Il y en a beaucoup qui font ça. Mais bon, après, c'est juste mon expérience, il y en a peut-être d'autres qui le font autrement.
Mais pour toi, en tant qu'artiste ?
Ah, pour moi, c'était de me resituer en tant qu'artiste dans un monde artistique que je ne comprends pas toujours. Et que j'ai du mal à m'adapter à ce monde artistique, en fait. Et au début, c'était une façon de me mettre en retrait, de réfléchir là-dessus, et de réfléchir à ma place d'artiste, en fait. C'était surtout ça. Et c'est surtout ça, en fait. Parce que je trouve aussi que, encore une fois, c'est mon point de vue, hein, que le monde artistique qu'on a maintenant, c'est un monde qui ne défend pas ses valeurs de paix, de sociabilité, de compassion. Enfin, c'est un monde aussi, bon, forcément, c'est un monde commercial, c'est un monde qui fait qu'on est, souvent en concurrence, pas toujours, mais il y a quand même, voilà, entre les galeries, les curateurs, les machins, c'est un microcosme, hein, que je renie pas du tout, mais je trouvais qu'il y avait d'autres valeurs qu'on pouvait apporter à l'art, en fait. C'est très naïf, hein, ce que je dis encore.
Alors la question pour toi, c'est qu'est-ce que c'est l'art, peut-être ?
Alors pour moi, l'art, c'est une façon de vivre. Pour moi, c'est surtout ça. Hein. Après, c'est ce qu'on en fait, qu'on fasse des tableaux, qu'on fasse une marche, qu'on fasse une performance, qu'on fasse de la musique. Parce que moi, j'utilise tous ces médias. Après, ça, c'est des accessoires, on va dire. Hein. Mais c'est une façon de vivre, c'est une façon d'exprimer ce qu'on vit, ce qu'on ressent par rapport au monde, comment on s'adapte au monde. Et comment on va raconter tout ça, en fait. En tout cas, c'est moi comment je le vois. Mais encore une fois, c'est vraiment tout ce que je vis au quotidien. Ah non, c'est des questionnements. Après tout, c'est un médium comme un autre. Il y en a qui dansent, il y en a qui font de la musique, il y en a qui marchent. Voilà. On n'est pas beaucoup d'artistes qui utilisent ce médium-là, mais si tu veux, quand on marche, on est aussi on est beaucoup dans la réflexion, parce que finalement, tu passes 8 à 10 heures par jour dehors, dans tes pensées. Donc il y a un aspect méditatif, il y a un aspect réflexif, ça se dit, je ne sais même pas. Mais pour moi, c'était aussi une façon, une espèce d'éloge à la lenteur, c'est-à-dire de ralentir aussi tout ce qu'on vit au quotidien, et de pouvoir... prendre le temps, en fait, de réfléchir à des choses. Et moi, j'ai un cerveau qui est un peu lent. Et du coup, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de pouvoir réfléchir, j'ai besoin de pouvoir prendre des décisions, ça me prend du temps. Donc, si tu veux, c'était pas mal à ce niveau-là. Et puis, on a plein d'idées qui viennent, donc on les note, on prend des photos, on filme, on fait un peu de musique. Donc après, voilà, il faut s'adapter. Mon atelier, il est tout petit, mais du coup, quand je marche, c'est encore plus petit parce que c'est réduit à mon sac à dos. Donc on a plein de formes diverses et variées pour créer, en fait. Et du coup, ça fait longtemps que je suis aussi dans l'esprit d'essayer de moins produire, donc de ne pas être dans une production matérielle forte. Quand je suis allé en Islande, j'étais invité pour une expo. Et du coup, j'ai invité 7 autres artistes locaux. Et l'idée, c'était aussi de savoir comment on pouvait faire une expo sans rien. Ou alors avec ce qu'on a autour de nous, ce qu'on trouve autour de nous. Même si on avait un budget, l'idée, c'était de se dire, voilà. Donc en fait, l'idée, c'était de créer un camp. Donc on a passé, moi je suis venu à pied, donc après on s'est retrouvé là-bas. On a passé 15 jours au bord de l'océan avec rien autour de nous. Et on a essayé de créer quelque chose à partir de là, en fait. Mais parce que j'aime cette idée de se dire que finalement, au-delà de l'atelier où on peut stocker, on peut faire des choses, on peut réfléchir à des choses, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire sans rien, en fait, ou avec la nature, ou avec ce qu'on trouve autour de nous. Et finalement, les artistes qui étaient venus, je me souviens, au début, ils étaient assez décontenancés, parce que très vite, c'était « Ah, est-ce que je peux avoir un clou? Est-ce que je peux avoir ça ?» Moi, je dis « Non, mais regarde, par contre, là-bas, il y a une décharge, peut-être tu peux trouver des clous, tu vois, c'était des trucs... Et finalement, c'était génial parce qu'on s'est prêté au jeu et ça, voilà, ça, après le résultat était ce qu'il était, mais c'était plus l'expérience qui était intéressante, en fait. Mais c'est cette idée de non-production, finalement, elle me convient bien, surtout à une époque maintenant où quand je fais de la musique, par exemple, à part un disque dur, on n'a pas besoin de beaucoup de stockage. Après, bon, quand je fais de la peinture, j'essaie d'en faire le moins possible. Je recycle énormément, je récupère des choses. Mais bon, c'est aussi l'idée d'être nomade, hein, d'essayer de vivre avec très peu.
Il y a un rapport au corps qui est très fort quand on marche. C'est aussi un rythme, c'est aussi une façon de s'ancrer dans le sol, une forme de pensée de marcher.
Ouais. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de méditation, parce que donc forcément t'as besoin de ton corps, parce que voilà, il faut que tu sois un peu en forme. Mais par exemple, le plus dur c'est de partir. Déjà c'est de prendre la décision de partir, parce que tu quittes un confort de chez toi, ton lit, ta salle de bain, tes trucs. Et quand tu as passé ce cap-là, moi, il me faut à peu près 2-3 semaines d'adaptation. Non, 2 semaines peut-être. C'est-à-dire que ton corps, en fait, il va commencer à s'habituer à porter ton sac, à porter à la fatigue. Donc au début, tu as plein de courbatures, tu es toujours... Et ça me le fait toujours. Si je m'arrête 10 jours, je vais reprendre des courbatures. Voilà. Donc tu as une espèce de mise en marche du corps. Mais je pense que c'est peut-être aussi comme un entraînement de danseur ou de sportif. Hein. Donc tu as ça, donc le corps est présent dans l'action, mais au bout d'un moment, tu oublies ce corps. L'aspect méditatif prend le dessus, pour moi. Hein.
Et puis, ça a à voir avec la performance.
Ouais, c'est, par exemple, quand ça m'est arrivé plusieurs fois, quand j'étais invité pour une expo, de prendre le temps d'y aller à pied. Alors, ça dépend où j'étais, mais... Donc ça me fait partie aussi de la contribution de ce que je vais faire pour l'expo, c'est cette marche. Durant cette marche, je vais collecter, prendre des infos, etc. Et je vais réfléchir à un système que je vais après mettre en place. Donc forcément en utilisant le moins possible. Et oui, c'est de la mise en scène, c'est ce que tu disais scénique tout à l'heure.
Oui, scénique au sens du moment présent.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je me souviens quand j'ai fait un truc à Anvers, dans cette galerie, je suis arrivé et tout de suite, mes besoins, ça a été, bon, j'ai besoin d'une semaine sur place et j'ai besoin d'après... En général, je me mets en contact avec avec beaucoup de gens autour. Par exemple, des endroits... là, je voulais construire, par exemple, une cabane. J'ai demandé un peu autour de moi, au théâtre, comment t'appelles ça, les dumpsters, les décharges à la ville d'Anvers, qu'est-ce que je pouvais récupérer comme matériel, et à partir de ça, effectivement, je crée sur place, dans l'espace, et après je remets le matériel dehors. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va se garder, ce qui va se garder forcément c'est une image. Donc la mise en scène elle est très importante dans le sens où je pars de rien, je crée quelque chose, mais après ça redevient rien. Ce qui va rester, c'est une histoire, une image, un son, une vidéo. Si tu veux, quand tu es dans ce processus-là, bon, tu n'es pas tout le temps en train de penser non plus à ce que tu vas faire, parce qu'il y a des moments, c'est où est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais manger. Des fois, pendant 3 jours, tu n'as pas à bouffer, donc tu es focus là-dessus, trouver de l'eau, trouver un endroit où dormir, etc. Mais tu as toujours des heures où tu vas penser à ce que tu pourrais faire, comment tu pourrais le faire, comment tu pourrais là encore aller plus loin. Et c'est beaucoup de questionnements parce que à la base la marche n'est pas une pratique artistique. Donc
il y a une histoire de marcheur.
Artiste marcheur, c'est ça?
Ouais.
Oui. Alors je l'ai rencontré. Un artiste, j'ai oublié son nom d'ailleurs.
C'est Hamish Fulton.
Oui, voilà. Alors lui, il a une pratique assez différente parce que lui, il est dans la mesure, par exemple, dans ce que j'ai compris de son art. Donc lui, il part faire des marches, mais il mesure. C'est-à-dire qu'il va... Ces tableaux, par exemple, dans ce que j'ai compris, c'était beaucoup de mesures entre un point A, un point B, enfin, des distances, des ailes, des... Moi, par exemple, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. J'ai du mal à mesurer, j'ai du mal à évaluer des distances, par exemple. Moi, je crois que la méditation, la réflexion, c'est tellement quelque chose d'introspectif, en fait. C'est plus dans cette démarche-là. Et dans ce que j'ai compris de son art à lui, par exemple, c'était très lié aussi à ce que j'ai pu voir, parce qu'à un moment, j'étais guide de montagne en Islande, où parfois, beaucoup, pas mal de gens, en fait, finalement, la marche devient une performance sportive. C'est-à-dire qu'on va dire, ah, j'ai fait le GR50 dans tel pays, j'ai marché, je l'ai fait en 2 mois, j'ai fait 1000 km en 3 semaines, enfin... C'est vrai qu'on est intéressé par ça, parce que des fois on se dit, ah mais là par exemple, quand je suis arrivé à Montpellier, j'ai eu un copain et il me dit, mais t'es déjà là. Je dis, bah oui, mais c'est pas si loin que ça finalement, tu vois. Mais tu le fais pas dans le sens où tu vas te dire, eh ben, je vais me donner 3 semaines. Enfin, moi, je me donne pas 3 semaines en me disant, je vais arriver dans 3 semaines. J'arrive quand j'arrive. Et après, il y a beaucoup de... Je connais que lui hein, comme artiste marcheur, j'en connais pas d'autres.
Et Werner Herzog.
Ouais. Alors, moi, je l'ai connu très tard, l'histoire de Herzog, qui a décidé de faire cette marche pour sauver, entre guillemets, son ami qui était malade. Hein.
C'était sur le chemin des glaces.
Ouais.
Ce livre, c'était une marche de Paris à Munich. Lui, il habitait à Paris à l'époque et son ami était mourante à Munich.
Ouais. Voilà, tu vois, cet aspect-là, c'est un peu ce que moi je défends. Il y a aussi un aspect poétique. Hein. Finalement, quand tu regardes bien, d'autres vont dire naïf ou ce que tu veux, mais c'est beau, finalement. C'est cette espèce de façon de se dire qu'il y a de l'espoir, qu'on a un espoir et que du coup, voilà. Je trouve que l'acte en lui-même est fort.
Et après, il y a comme ça des choses qui apparaissent peut-être aussi quelques années plus tard, où il y a mémoire aussi de
Exactement.
Cette marche
qui
persiste et qui est peut-être aussi le fondement de ton travail, qui peut apparaître ailleurs lors d'une exposition ou un écrit. Mm-hmm. J'imagine qu'il peut y avoir plusieurs diffusions ou une chanson parce que tu composes aussi.
Exactement. Puis des fois, ça m'arrive souvent, par exemple, d'être en train de marcher dans un coup, de me rappeler un moment où, genre peut-être 4 ans en arrière, tu vois, des choses qui reviennent, que tu vas réutiliser. Composer en marchant, c'est intéressant aussi parce qu'on peut prendre l'enregistreur de son téléphone. Et puis maintenant, en 2025, on a tellement d'outils, c'est génial. Donc on peut commencer des petites lignes de base, des petites lignes de rythme. Il y a un moment donné, une amie qui était venue me rejoindre sur une marche, on avait enregistré des rythmes en fait, en tapant sur les gourdes pleines d'eau, enfin, on avait fait pas mal de choses comme ça. Donc, en fait, tu as plein de choses différentes. Et finalement, oui, plein de moments qui reviennent, des moments qu'on oublie aussi. Mais c'est riche, très riche.
Et on pourrait peut-être même dire que c'est le travail d'atelier pour toi.
Ah oui. Et cette amie qui était venue me voir, c'était pour cette expo justement qui avait lieu à Anvers. C'était la commissaire d'expo et on a fait une visite d'atelier. Elle est venue marcher une semaine avec moi. Voilà. Et du coup, on avait parlé de l'expo, ce qu'on pouvait faire, etc., etc. Donc elle avait vraiment joué le jeu. Elle était venue avec son sac à dos. C'était pas facile pour elle au début. Mais c'est un moment chouette, vraiment chouette.
On peut dire que la notion, qu'est-ce que tu testes aussi, c'est, y a un rapport spirituel qui est évident, donc c'est une recherche de se décentrer, centrer à la fois, c'est-à-dire que d'être en dehors du temps et être complètement dans le temps, et puis aussi d'éprouver l'espace, parce que l'espace, il est finalement, comme on le connaît, avec nos maisons, il n'est pas du tout le même que lorsqu'on le découvre sans maison, la nuit, quand il ne fait pas beau, quand on est dans des lieux qui ne sont pas accueillants, et un espace qui va avec, je ne dirais pas avec rien, justement, mais justement avec tout, avec toutes les personnes qu'on rencontre. Peut-être on prend la mesure du monde en marchant. On est près de beaucoup de choses qui se passent, qu'on ne remarque même pas si on est dans un quotidien, dans une ville.
Oui, c'est différent. Après, je pense qu'on peut l'être aussi si on est dans une ville. On peut être ouvert à plein de choses. Hein. Je ne veux pas dire que la marche, ça ouvre plus qu'à un autre endroit. Hein. Faut pas se leurrer, c'est pas que ça, tu vois.
Mais c'est une traversée.
Moi, je dirais plus... C'est une façon, je dirais peut-être plus humble. J'essaie d'être plus humble tout le temps, voilà. D'avoir plus d'humilité dans la création artistique. Je me souviens, à un moment donné, je faisais beaucoup de kilomètres, mais pas parce que je voulais faire plein de kilomètres, mais parce que voilà, je me sentais bien. Et j'avais honte de dire que j'avais fait 40 kilomètres en une journée, par exemple. Donc ça m'arrivait parfois de mentir à d'autres gens. Parce que je trouvais que ça faisait trop... ça me mettait trop dans l'exploit sportif, alors que... À la base, je le faisais parce que je me sentais bien, parce que j'étais content d'être dehors, tu vois. Mais je pense que pour moi, c'est peut-être plus dans l'humilité de savoir comment on pratique l'art. Forcément, on a tous un ego, j'en ai un qui est assez gros aussi. Mais la marche, on va dire, elle me permet de réduire... Ce qui m'importait de faire cette marche pour la paix, c'est symbolique. Hein, c'est, mais il y a un moment donné, il faut s'effacer derrière ça. Et c'est-à-dire que il est, pour moi, il est important de rester humble par rapport à ça, mais ce qui n'est pas facile tous les jours. Hein, mais, parce que c'est difficile à gérer. On est aussi des humains et on a aussi besoin d'attention. Ce projet a besoin d'attention aussi. Il a besoin parfois d'être financé. Parce que c'est l'idée aussi d'en faire un film, un livre, une expo. Donc pour faire tout ça, ça a un coût. Donc il faut pouvoir aussi et en parler et trouver des potentiels financements, tu vois, des choses comme ça. Si tu veux faire un film, il te faut une production. Si tu veux faire une expo, et ben voilà. Donc c'est essayer de comprendre comment on peut, sans être trop naïf, sans être trop utopiste non plus, à un moment revenir à une certaine réalité et en faire quelque chose. Donc tu disais tout à l'heure que la marche était la gestation. Oui, c'est très juste. Et après, je pense qu'il y a un temps où tu vas devoir justement te poser et réfléchir un peu à tout ça pour essayer de combiner quelque chose.
Est-ce que c'est une forme de soin aussi ? Une façon de se guérir ?
Ouais, peut-être. Y a... En tout cas, ce que je peux dire, mais juste personnellement, c'est que ça fait du bien. Après, ça ne résout rien, ça ne va pas résoudre tes problèmes, ça va pas... Mais finalement, passer autant de temps à l'extérieur, dans une activité physique, entre guillemets, parce que c'est un peu physique, de voir des paysages, de voir des paysages moches ou pas moches, hein, de voir des gens, de rencontrer des gens, de discuter avec des gens de tout et de rien, finalement, ça apaise. Ça, oui, je pense qu'il y a un côté un peu... ça fait du bien, oui, ça fait du bien. Ouais. Après, est-ce que guérir, je ne sais pas, parce que je ne suis pas guéri de mes traumas. Bon, en tout cas, ça les apaise.
Merci beaucoup, Joseph.
Merci à toi, Nadia, de m'avoir accueilli. Merci.
Sorry, and the sun away. How do you feel the sorrow? Let the sun away. How do you feel the sorrow? Let the sun away. How do you feel the sorrow? Let the sun away.
On se retrouve la semaine prochaine avec notre nouvelle invitée.
Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. fantôme. Camère fantôme. Camère fantôme. Une émission Panadia Lichtig.